Osons parler du mariage. Osons écouter la parole de Dieu sur l'amour de l'homme et de la femme, sur le mariage, sur ces deux qui ne deviennent plus qu'un. Alors que nous entendons tant de choses, surtout aujourd'hui, qui disent autre chose que la parole de Dieu. Et c'est frappant que Marc met juste après ce dialogue de Jésus avec les pharisiens, mais aussi avec ses disciples, même pour les disciples, c'est pas si évident que ça. Aussitôt après, il raconte comment Jésus accueille les petits-enfants et comment il nous invite à accueillir le royaume comme un enfant. Oui, il faut une sorte de naïveté, de disponibilité, de liberté intérieure pour se laisser enseigner et pour penser comme Dieu pense et pour vivre comme Dieu le désire, comme Dieu le voit. Eh bien, Jésus donc nous renvoie au commencement. Spontanément, on comprend ça au sens historique, tout à fait au début. Depuis toujours, oui, depuis toujours, il y a cet élan de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme, et ce désir de s'unir. C'est une réalité intime et originelle, quoi qu'on en dise aujourd'hui. Et même si Moïse lui-même a fait des concessions, Jésus nous renvoie à une vérité initiale. Mais ce commencement, c'est aussi revenir à ce qui est dans le cœur de Dieu lui-même quand il nous crée. Cette vision divine sur l'homme et la femme, voilà ce qui est originel, ce qui est premier. Quoi qu'ensuite on puisse rajouter pour le faire mieux comprendre, ou au contraire, pour nous éloigner de cette lumière de la parole de Dieu. Enfin, au commencement, c'est peut-être aussi tout simplement au commencement, à la base, à l'origine, à la source de nos propres élans, les uns vers les autres. Ce désir d'aimer, ce désir d'être aimé, c'est complètement enraciné en nous, c'est initial, c'est premier. Et toute une grande part de nos souffrances vient justement d'une blessure de cette relation de l'amour. Alors, au commencement, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Homme et femme, il les créa. Dieu n'a pas créé le gender, je suis désolé. Il les crée homme et femme. Il crée cette altérité. Et altérité très précieuse, parce que si nous voulons aimer, nous devons être en relation. Et pour qu'il y ait une relation, le même avec le même n'est pas une relation. Il faut que ce soit vraiment l'autre, le mystère de l'autre qui me fait signe, qui m'appelle et qui vient à ma rencontre. Aujourd'hui, nous savons que nos contemporains ont du mal avec cette notion de l'altérité. La grande règle, c'est qu'on est tous pareils. Et cette espèce de mentalité fusionnelle et d'idéologie du même fait des ravages. Au fond, c'est pas seulement une question, la question ne se pose pas seulement dans l'ordre de l'amour et de la sexualité, mais dans tous les domaines aujourd'hui, c'est le nivellement, c'est la société anonyme. Il faut que tout le monde soit pareil, il faut que les pays soient pareils, que les cultures soient pareilles, que les traditions soient pareilles. Et finalement, on veut au fond que le monde entier soit sous le règne du Coca-Cola. Donc l'homme et la femme, bienheureuse altérité, qui sont appelés à devenir un. Et là, dans le premier récit de la création, c'est souligné, il créa l'homme, il les créa, homme et femme, masculin et féminin. Ils sont appelés à devenir un. C'est un mystérieux singulier pluriel. Ces deux qui ne font plus qu'un, à l'image de la Sainte Trinité, où les trois ne font qu'un. Il fallait que ce soit ce Dieu amour, ce Dieu trinitaire, qui invente la communion d'amour de l'homme et de la femme à son image. Il les créa à son image. Il y a un reflet de la communion divine, de l'amour trinitaire au cœur du couple et de la famille. C'est très précieux. Ils deviennent un pour toujours. Comme dit Jésus, comme conclusion, en relisant le livre de la Genèse, et bien que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Par le mariage, l'homme et la femme deviennent inséparables. Vous me direz, mais il y a des cas où la vie commune n'est plus possible. Il y a même des cas où c'est dangereux, il faut plutôt se sauver, en effet. Oui, mais l'alliance demeure, même si elle ne s'exerce plus, ne s'exprime plus, de façon visible, elle demeure. Parce que dans le mariage, on donne sa parole. Et quand j'ai donné ma parole, je dois la tenir. Et plus profondément encore, dans le mariage, il y a une grâce de Dieu, il y a un don de Dieu. Et Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a donné, il ne reprend pas ce qu'il a donné, c'est donné pour toujours. Et je connais des personnes qui, après une séparation, avec humilité et courage, mais aussi avec la grâce de Dieu, demeurent fidèles à cette parole qu'ils ont donnée et à ce sacrement qu'ils ont reçu. Bien sûr, dans le cas où le sacrement est valide, il faut vérifier quand même qu'au départ, il n'y a pas eu une erreur sur la personne ou un manque de liberté. Cette grâce donc est donnée pour toujours. Et voilà ce que nous devons entendre. Quand Dieu aime, c'est pas pour rire, c'est pas pour cinq minutes, c'est pas par hasard, c'est pas par habitude non plus. C'est un amour qui est toujours présent, toujours en éveil, toujours agissant, toujours créateur. Et c'est notre vocation à tous, d'une manière ou d'une autre, au fond. Et alors cette parole du Seigneur sur l'amour humain, je voudrais qu'elle soit d'abord pour tous ceux qui essaient de le vivre, qui sont appelés à le vivre, qui le vivent tant bien que mal, avec parfois des difficultés, mais qui y tiennent, qui y croient, que cette parole soit pour eux une confirmation. Pour d'autres dont le couple est difficile, dont le couple est un peu blessé, ou bien cherche un peu sa route après quelques virages difficiles, que cette parole de Dieu soit une invitation à reprendre ce chemin de l'amour, à revivre cette grâce du don mutuel. Pour les plus jeunes, pour lesquels la question du mariage n'est pas encore posée, eh bien que cette parole de Dieu soit une invitation, une préparation, un appel. Oui, c'est ce que je veux vivre un jour. Et je peux déjà prier pour la personne, celui ou celle, qui le Seigneur mettra sur ma route, pour que nous vivions ensemble cette belle et grande aventure du mariage. Et puis à ceux que j'évoquais, dont le mariage a été blessé ou brisé, et qui se retrouvent seuls, ceux aussi qui, par le veuvage, doivent prendre un chemin de solitude, que cette parole de Dieu soit vraiment une consolation, parce que Dieu ne cesse pas d'aimer, et ce qu'il a uni demeure mystérieusement ensemble en sa présence, sous son regard. Peut-être aussi pour que l'un ou l'autre, ça peut être, cette parole de Dieu peut être une interrogation, parce que c'est pas ce que je vis, on est ensemble sans être mariés, ou bien on a connu une première union et on en vit une deuxième, et c'est problématique, c'est une interrogation. Le Seigneur ne veut pas par sa parole nous juger et encore moins nous condamner, mais il veut nous interroger et nous maintenir en éveil et en mouvement. Enfin, pour nous tous, que cette parole de Dieu soit une bénédiction, car au fond, sous des formes différentes, il n'y a qu'une vocation qui est d'aimer à cœur perdu.